Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Multiplier les petits hôpitaux en France, jusqu'à 600, dit le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Son rapport, commandé par l'exécutif, risque de ne pas plaire à ce dernier. Précision et analyse en début de journal.
Combien de temps un logement social vendu peut-il être compté dans le quota communal de la loi SRU ? Le gouvernement voudrait doubler ce temps. Si la droite le pousse à aller plus loin, la gauche et la Fondation Abbé Pierre craignent qu'on ne touche à un totem.
Dans ce journal, vous entendrez aussi Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou réunis à Paris hier, le Français et l'Israélien ont campé sur leurs positions respectives vis-à-vis de l'Iran et du nucléaire iranien. Fin de la discussion.
Et puis, voilà qui fait étrangement penser à Notre-Dame-des-Landes. En Grande-Bretagne, l'agrandissement d'un aéroport divise le gouvernement.
Comment l'équipe de France de football est devenue un objet politique ? Voici le thème du billet de Frédéric Seyss dans un gros quart d'heure. C'est un avis de spécialiste qui pourrait bien gêner le gouvernement. Le Haut Conseil de l'assurance maladie propose de multiplier les hôpitaux de proximité pour décharger les urgences. Derrière ce comité, on trouve des syndicats, des directeurs d'hôpitaux et les représentants des caisses de sécurité sociale. Ils ont planché sur ce que doit être, selon eux, l'hôpital de demain, à la demande du Premier ministre Édouard Philippe. Et le rapport publié hier fait donc d'ambitieuses propositions. Globalement, cela donnerait des hôpitaux plus nombreux et plus petits en France. Bonjour Jean-Marc Chardon.
Bonjour Clara.
Le rapport évoque des établissements de santé communautaires.
Oui, des établissements communautaires dans le sens où ils rassembleraient des médecins urgentistes comme des médecins de ville, des radiologues, des biologistes. Ils accueilleraient aussi bien les femmes enceintes que les personnes âgées et des patients atteints d'affections chroniques. L'objectif étant principalement d'alléger les urgences, ce qui signifie que ces établissements pourraient répondre à des pathologies relativement courantes. Pour des besoins plus pointus, eh bien, les patients seraient dirigés vers un service hospitalier spécialisé de type CHU. Alors, on serait donc dans un schéma d'hôpital de proximité, petite dimension, sous un régime de polyvalence médicale. Ce n'est pas le retour non plus des maternités de proximité pour autant, mais bien la recommandation de revenir à un format que les membres du Haut Conseil de l'assurance maladie qualifient eux-mêmes de communautaire.
Et tout cela, Jean-Marc, ne va pas forcément dans le sens des objectifs du gouvernement.
Oui, c'est que jusqu'à présent, c'est la politique de regroupement d'établissements qui a été privilégiée, pas que d'aujourd'hui, où dans toutes les régions, on a fermé des services de chirurgie, d'urgence, de maternité, au nom d'économies à faire en avançant aussi la sous-utilisation de certains services dans certaines régions. Sauf que ça a entraîné des réactions multiples, des intéressés déjà, des collectivités aussi, comme des maires de petites villes, Clamecy, Bar-le-Duc, Saint-Chamond, bien d'autres, entre autres qui se sont élevés contre ces fermetures, certains allant jusqu'à envoyer leur démission au préfet. Et dans le même temps, eh bien, on assiste à une montée de la grogne des personnels. Ces derniers jours, ce sont les médecins intérimaires qui ont appelé à des opérations de boycott, c'est dire qu'il y a un malaise. En tout cas, l'une des raisons pour laquelle le président de la Fédération des établissements publics, Véronique Valtoux, appelle lui-même à créer un nouveau modèle qui intègre l'ensemble des professionnels de santé, ce qui pourrait déboucher sur une nouvelle carte de soins également.
Merci Jean-Marc Chardon. Et vous évoquiez la sécurité sociale en bonne forme en ce moment. Ses comptes seront quasiment à l'équilibre cette année selon la Commission des comptes. C'est une première depuis 17 ans, depuis 2001. Le déficit global devrait se réduire fortement à moins de 300 millions d'euros cette année donc, contre plus de 5 milliards l'année dernière. Le tout grâce à la conjoncture et la croissance meilleure que prévue et surtout aux efforts consentis par le secteur hospitalier. Claude Le Pen, économiste de la santé, professeur à l'Université Paris-Dauphine, tient à le rappeler, ce déficit a coûté cher.
Le déficit abyssal, il remonte à 2009-2010. Donc il a fallu pendant des années des plans d'économie de plus en plus sévères et le dernier, le plus sévère de la série, plus de 4 milliards, payé par le secteur pharmaceutique, payé par les hôpitaux, dont on baisse tous les ans les tarifs de 2-3%, payé par les professionnels de santé, payé par les Français aussi, d'un certain point de vue, qui font la queue aux urgences. Donc c'est quelque chose qui ne tombe pas du ciel. C'est pas un déficit qui est miraculeusement évanoui, c'est un déficit qui est le fruit, d'une part, des efforts fait par le système de santé en général et d'autre part de l'amélioration de la conjoncture.
Voilà comme un écho à la refonte nécessaire du système hospitalier actuel. Marine Le Pen, présidente du parti Rassemblement National, vous êtes l'invitée des Matins de France Culture. Vous vous êtes déjà exprimée lors de la campagne présidentielle l'année dernière, notamment sur les changements à apporter à l'hôpital public, organiser des groupements hospitaliers de territoire, augmenter les effectifs. Le déficit de la Sécu baisse, on vient de l'entendre en ce moment. Comment investir davantage, selon vous, dans la proximité sans augmenter les dépenses ?
D'abord, permettez-moi de vous dire que la proximité, c'est notre ligne de conduite. Voilà. Je pense qu'on a assisté depuis un certain nombre de temps à des concentrations qui sont en réalité très négatives pour la santé de nos compatriotes et d'ailleurs pour l'aménagement de notre territoire, qui est un sujet qui a été complètement jeté avec l'eau du bain. Hein. C'est le bébé jeté avec l'eau du bain par les différents gouvernements successifs. Donc oui, évidemment, nous sommes pour la mise en œuvre de structures de proximité. Est-ce qu'il y a encore des économies à faire qui ne soient pas des économies qui touchent à la qualité de la santé, ce qui est le cas aujourd'hui, car les économies dont on se félicite en réalité entraînent un fonctionnement de la santé qui est très dégradé et qui fait que nous reculons dans l'offre de soins et dans la qualité des soins qu'on peut offrir aux Français. Oui, bien sûr. Je vous signale que la Cour des comptes a, je crois, lundi dernier, validé les comptes de la Sécurité sociale en indiquant qu'il y avait des fraudes très importantes et en alertant sur les fraudes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une politique de lutte contre les fraudes? Je ne crois pas. En tout cas, elle n'est pas sérieusement mise en œuvre. 7 milliards, hein, indique la Cour des comptes.
Et c'est ça considérable. Suffirait, selon vous, à embaucher davantage dans le secteur hospitalier?
Oui, déjà, ça permettrait d'avoir tout de même une belle enveloppe. Hein, 7 milliards, permettez-moi de vous dire que c'est une belle enveloppe quand même pour pouvoir améliorer la qualité des soins. Mais il n'y a pas que cela. Nous avons plaidé pour la campagne sur toute une série de mesures, notamment la vente des médicaments à l'unité. On ne comprend toujours pas pourquoi on fait ce cadeau au laboratoire incroyable qui consiste à faire payer par l'assurance des médicaments en surnombre par rapport à ceux qui sont nécessaires pour traiter l'affection. Bon, et cela, on voit bien que la soumission d'un certain nombre de dirigeants politiques, y compris du ministère de la Santé, aux intérêts des laboratoires, est un frein considérable.
Merci Marine Le Pen. Nous vous retrouvons dans une grosse dizaine de minutes dans les matins de France Culture. Au chapitre des réformes maintenant qui sont déjà en cours, la loi Élan est toujours débattue à l'Assemblée nationale. Vif débat cette nuit sur les quotas de logements sociaux imposés aux communes. 25% selon la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain. Elle a été votée il y a 18 ans. Les députés ont commencé à discuter d'un éventuel allongement de 5 à 10 ans de la durée pendant laquelle des logements sociaux vendus sont pris en compte dans ce quota fixé par la loi SRU. La droite voudrait aller plus loin que ces 10 ans quand les trois groupes de gauche accusent le gouvernement de toucher à un totem. Interrogé par Annabelle Grelier, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert, y voit la casse du modèle du logement social en France.
La loi SRU qui impose la construction de logements à hauteur de 25% pour toutes les communes qui en ont insuffisamment de logements sociaux. Le gouvernement, là, pour le coup, dit « bon, ces logements vendus à leurs locataires, il faut qu'ils restent dans le décompte des logements sociaux pendant 10 ans ». Nous, on dit non, non. Parce que à partir du moment où, tant mieux si quelqu'un a accédé à la propriété dans de bonnes conditions dans un logement social vendu, pourquoi pas. Mais si la loi SRU a été votée en 2000, c'est pour développer l'offre locative sociale. Donc on se trompe complètement de cible, donc on s'y oppose aussi fermement. De la même manière, il y a encore un amendement qui a été adopté il y a deux jours ou trois jours, qui envisage de dissocier, c'est technique, hein, je suis désolé, mais le foncier du bâti, pour justement dire le foncier serait la propriété d'investisseurs, l'usage de ces logements serait préservé pour les bailleurs sociaux, pour loger des ménages sous les plafonds pour le logement social, mais là aussi, l'idée, c'est de pouvoir trouver une rentabilité pour ces investisseurs à terme, donc de les vendre à une échéance, je ne sais pas, 15, 20, 25 ans. On casse aussi le modèle. C'est compliqué, c'est technique, mais c'est déterminant pour les conditions de logement de nos concitoyens aujourd'hui et pour l'avenir.
Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre, de son côté, le gouvernement assure tenir aux fondamentaux de la loi SRU. Et dans les couloirs de l'Assemblée nationale hier, les députés mobilisés sur ce projet de loi Élan avaient encore la tête à la question du glyphosate qui a été abordé la semaine dernière dans l'hémicycle. L'interdiction de ce pesticide n'a pas été votée, contrairement à l'engagement du président Emmanuel Macron. Et beaucoup d'élus ont dû répondre aux questions de leurs administrés, Stéphane Robert.
De nombreux députés ont été interpellés ce week-end, et ça quel que soit leur bord politique. Si le glyphosate est dangereux, pourquoi n'avez-vous pas voté l'interdiction? La question est revenue à maintes reprises aux oreilles du député MoDem du Finistère, Erwan Balanante.
Oui, oui, c'est assez surprenant. Certains qui aujourd'hui nous disent « mais c'est pas possible cette histoire de glyphosate » utilisaient encore le Roundup dans leur jardin il y a un an. Ça cristallise. C'est le point pivot de la politique environnementale et agricole. C'est-à-dire que le message, et c'est là que c'est désastreux, puisque la loi va dans le bon sens, il faut le redire. Mais c'est « vous n'avez pas avancé là-dessus, donc vous n'avancez pas sur l'environnement ».
Même chose pour le député constructif Bertrand Pancher en Moselle, qui a essayé tant bien que mal de faire valoir le point de vue du monde agricole.
Nos concitoyens veulent qu'on change de modèle en claquant des doigts, c'est-à-dire qu'on interdise tout de suite le glyphosate. Quand on interroge des agriculteurs, moi je suis un grand département agricole, tous nous disent, oui, du jour au lendemain, si on nous interdit et que s'il n'y a pas d'autres techniques, on était déjà à l'agonie, on va tous mourir.
Ce qu'il faut bien voir, selon le député souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, c'est que le glyphosate est devenu un symbole pour la population.
Je pense qu'il était vital de mettre l'interdiction, alors peut-être 5 ans au lieu de 3, mais au moins dire, il y a un moment, on va dire stop. Et ça nous obligera, nous, pouvoir public, à travailler avec les scientifiques, avec les milieux agricoles, pour trouver de nouvelles méthodes d'exploitation.
Le glyphosate pourrait-il devenir un produit politiquement corrosif au point d'entamer la crédibilité d'Emmanuel Macron sur l'environnement ? En tout cas, pour le moment, il irrite les préoccupations écologiques d'une partie de la population.
Recruter des enseignants au niveau Bac plus 3 et non plus Bac plus 5, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer y réfléchit, une sorte de pré-recrutement. Les étudiants poursuivraient ensuite leur formation pendant 1 ou 2 ans, mais en étant payés. L'idée est de redynamiser le métier d'enseignant, pour lequel le nombre de candidats baisse depuis 2012. Il est poursuivi pour fabrication d'explosifs qui ont servi lors des attentats du 13 novembre 2015. Un Belge âgé de 31 ans est mis en examen. Il aurait eu la clé d'une planque à Bruxelles où ont été fabriquées les ceintures d'explosifs utilisées lors des attaques, mis en examen donc pour complicité. Et Yassine Attar est le frère d'Oussama Attar, un vétéran du djihad soupçonné d'avoir piloté les attentats du 13 novembre depuis la Syrie. Il n'a jamais été interpellé.
8h12 sur France Culture, c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le nucléaire iranien était bien au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou hier soir à Paris.
Et comme prévu, le message d'Israël a été clair. Arrêtez à tout prix le programme iranien, pire menace au monde, selon le Premier ministre israélien. Téhéran avait annoncé un peu plus tôt dans la journée son intention d'augmenter sa capacité à enrichir l'uranium. Pour Emmanuel Macron, cela ne signifie pas que l'Iran soit sorti du cadre de l'accord de 2015. Le président français qui a mis en garde par ailleurs toutes les parties contre une escalade qui pourrait conduire au conflit, selon lui. Parole des deux dirigeants depuis l'Élysée hier.
Vous connaissez la vive préoccupation que suscite dans nos deux pays l'instabilité régionale, y compris la présence militaire de l'Iran dans la région. Et j'ai redit au Premier ministre ma conviction profonde, partagée par nos partenaires européens, que l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien devait être préservé pour contrôler l'activité nucléaire de la région, mais n'avait jamais été considéré par la France, en tout cas depuis un peu plus d'un an, comme suffisant et pleinement satisfaisant.
Le plus grand danger pour le monde aujourd'hui est, de mon point de vue, l'arme nucléaire dans les mains d'un régime islamique radical tel que celui de Téhéran. Les archives nucléaires que nous avons trouvées récemment prouvent que l'Iran a menti au monde sur son programme d'armement nucléaire. Que ce soit clair, je n'ai pas demandé au président Macron de se retirer de l'accord. Je crois que les réalités économiques sont plus susceptibles d'influencer sa décision.
Benjamin Netanyahou qui termine donc sa tournée européenne ce mercredi. Après Berlin-Paris, il se rend à Londres pour y tenir les mêmes propos. Confiance accordée en Italie. Le nouveau chef du gouvernement, Giuseppe Conte, a le soutien du Sénat. Il doit avoir celui de la Chambre des députés aujourd'hui. Giuseppe Conte qui dit assumer la politique populiste de son gouvernement. Il souhaite ainsi lutter contre ce qu'il appelle le business de l'immigration, relancer la croissance et se rapprocher de la Russie. Hier, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont attendu Matteo Salvini, leur nouveau collègue, patron de la Ligue, lequel a été retenu au Parlement à Rome. Il n'est donc pas venu à Bruxelles. Et cela a accru l'inquiétude de ses pairs quant aux intentions de l'Italie en matière de migration et de visa, à l'image du député des Français de l'étranger, Pierre-Alexandre Anglade.
C'est vrai qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'incertitudes quant aux orientations qui seront prises demain à Rome. On voit bien que les orientations qui seront prises par le nouveau ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, laissent à penser qu'il sera difficile de trouver, en tout cas dans les semaines qui viennent, un point d'entente entre Européens sur les questions d'asile et d'immigration et que la réforme qui est bloquée maintenant depuis de nombreuses années au niveau européen pourrait être bloquée encore longtemps. ce résultat électoral dans la péninsule, et on le voit dans un certain nombre d'États membres, dépasse largement les frontières italiennes. Et si nous ne répondons pas rapidement politiquement aux défaillances structurelles de l'Union européenne rencontrées ces dernières années, nous verrons d'autres cas italiens se développer en Europe dans les années à venir.
Pierre-Alexandre Anglade avec Quentin Dickinson à Bruxelles. En Afrique, un vieux conflit de plus de 20 ans est peut-être en train de se régler. L'Éthiopie a fait savoir hier qu'elle mettait fin à son litige avec son voisin érythréen. Conflit sur la frontière entre les deux pays qui s'était fait la guerre à la fin des années 90. Nous en venons à ce Notre-Dame-des-Landes anglais. Après 50 ans de discussion, la première ministre Theresa May vient de décider d'agrandir l'aéroport d'Heathrow. Un projet qui doit encore être voté par les députés, et ce ne sera pas si simple, car même au sein du gouvernement britannique, tous les ministres ne sont pas favorables à cette extension, Antoine Gignot.
Pour Boris Johnson, c'est une catastrophe. Le chevelu ministre des Affaires étrangères promet même d'aller s'allonger devant les bulldozers pour stopper les travaux. Avec l'augmentation du trafic, chaque jour, 700 avions supplémentaires pourraient survoler la circonscription dans laquelle il a été élu et dont le ciel est déjà en permanence strié par les traînées des réacteurs. À l'inverse, le ministre des Transports, Chris Grayling, évoque une avancée historique. Il met en avant la création de 60 000 emplois et un bénéfice de 80 milliards d'euros à l'horizon 2050. Mais les débats au Parlement vont être houleux. Les élus du SNP écossais soutiennent le projet, les libéraux démocrates opposent, comme les Verts. À gauche, les travaillistes attendent de voir les résultats des tests sur le bruit, la qualité de l'air et les retombées économiques. Plusieurs associations de défense de l'environnement parlent aussi d'aller porter l'affaire en justice.
121 personnes ont été tuées au Nicaragua depuis la mi-avril, 121 morts, 1300 blessés lors de la vague de manifestations contre le gouvernement du président Daniel Ortega. Le chiffre est donné ce matin par une ONG locale, le Centre nicaraguayen des droits de l'homme. Et puis un autre bilan qui s'amplifie et pourrait encore grimper au Guatemala, 3 jours après l'éruption d'un volcan. Ce bilan fait état de 75 morts, près de 200 disparus. La montagne projette encore de la lave et des cendres ce matin. En France, comme un air de déjà-vu du côté du temps, agité et orageux ce mercredi matin. Des averses d'abord sur la moitié ouest du pays, puis des orages à la mi-journée, excepté près de la Méditerranée, sur l'Aquitaine et en Midi-Pyrénées. Ce matin, sont toujours sous vigilance orange pour des inondations, la Charente maritime, la Vienne, les Deux-Sèvres et l'Eure. Côté température, comptez 13 degrés à Cherbourg ce matin, 18 à Bordeaux, Auxerre, 20 degrés en Île-de-France et à Dunkerque, 21 à Lyon, Nice et sur la Corse. Et la maximale, elle est toujours à Strasbourg, 24 degrés.